Lila, soyez les bienvenus avec Leïla Kadogounedi.
Bonjour
Tristan Lila. J'allais dire sale con, non, Pierre Emmanuel Barré. Daniel Morin.
Bonjour
Daniel. Claire Villiers, Richard Ornac, en live tout à l'heure, Burning Peacocks, et notre invité, l'excellent Olivier Assayas. Oh. Bonjour Olivier, merci d'être là le jour de la sortie de Personal Shopper. Vous allez bien d'abord ?
Oui, on peut mieux.
Première question que l'on pose à tout être humain, que l'on respecte en plus, et je suis vraiment ravi de vous accueillir, parce que ce film, nous l'avons... adore. Enfin, oui. Je l'ai adoré. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bas. Vous direz après ce que vous en pensez, mais moi, je l'ai personnellement adoré. J'ai peur, Tom Villa, que vous n'ayez pas très bien compris pourquoi Olivier Assayas.
Moi,
je
n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Je vous retourne la question. Je pense que vous n'avez pas compris.
Moi, si, vous avez la tête.
Mais on a invité Olivier Assayas parce qu'il a la carte du club. Vous connaissez le club ou pas, Nagui ?
Le club Inter ?
Non, c'est le club des mecs qui arrivent à se faire applaudir et huer en même temps à Cannes, mais qui chopent quand même un prix de la mise en scène. Ça s'appelle le club Assayas, qui est composé d'une seule personne, Olivier Assayas. À une palme d'or près, il aurait pu fusionner avec le club Piala, voilà. Mais à mon avis, ça peut arriver. Alors Olivier Assayas, donc comme l'a dit Nagui, vous venez nous présenter votre dernier film, Personal Shopper. Le pitch, c'est donc l'histoire de Maureen. C'est une jeune américaine qui travaille comme personal shopper pour une célébrité. Donc personal shopper, c'est de l'anglais pour dire assistante sous-payée pour aller chercher des robes qu'elle aura jamais les moyens de s'acheter elle-même. Vous voyez Christina Cordula, c'est l'assistante de Christina, l'esclave de Christina Cordula plutôt. Voilà, personal shopper, c'est une meuf qui appelle des bijoux de chez Cartier, des accessoires, voilà, et qui se balade en scooter dans Paris avec ses fameux accessoires. Donc elle transporte l'équivalent du PIB du Tchad dans trois pauvres sacs en plastique sur un Vespa pourri. Putain les gars, c'est pas Kim Kardashian qu'il fallait braquer, c'est son assistante. On est trop cons. Mais Maureen est surtout à Paris car elle tente d'établir un contact dans l'au-delà avec son frère décédé et commence à recevoir des textos un peu mystérieux. Donc là sur le papier on se dit tiens, ça commence comme le diable s'habille en Prada et puis ça prend le virage d'un bouquin de Guillaume Musso. Alors je le dis tout de suite, si vous êtes fan de mode et de Kristen Stewart, n'y allez pas. Enfin si. Non, parce que je me fais engueuler. Ceux qui pensent que c'est sur la vie palpitante d'une assistante de Kardashian risquaient d'être très déçus. On est plus en sixième sens que dans Nouveau Look pour une nouvelle vie, quand même, ouais. On va pas se mentir. Ouais. Sauf que la meuf, elle voit pas des gens morts, elle textote avec des gens morts. C'est quoi son forfait ? Elle est passée chez Soch ? Non, chez Rock Éclair. Allez, comme ça.
Je suis pas d'accord.
Enfin, elle textote. Les échanges, c'est plutôt de l'ordre...
Ça fait flipper.
Qui es-tu ? Ouais. Qui aimerais-tu que je sois ? Tu es où ? Je suis là. Mais où ?
Souviens-toi de l'été dernier.
C'est clair. Personal Shopper, c'est un très beau film, très, très contemplatif. On contemple beaucoup Kristen Stewart,
oui.
Qui en gros, soit fait la gueule, soit fait du scooter, soit fait la gueule en scooter. Non, mais je taquine Kristen, mais c'est vrai, c'est un fantasme pour tous les humoristes. Ah si, c'est, on a tous le fantasme de la faire marrer, au moins une fois. Tu as même un rictus, ça nous irait. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez les fantômes relous, Kristen Stewart qui fait la gueule et les films mystérieux, Personal Shopper est fait pour vous.
Merci Tom Villa.
La bande originale, Nagui. Il a rien compris.
Ouais. Moi, j'ai pas compris.
Non, c'est pas
si
vrai.
Si t'as compris, t'expliqueras.
Merci, Pierre-Emmanuel.
Non, mais ce qui est bien, en tout cas, c'est que chacun peut avoir, et c'est sûrement ce que vous souhaitiez d'ailleurs, son interprétation de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, puisque vous avez tenté de filmer l'invisible, ce qui est déjà pas facile pour un réalisateur, et de mélanger le bling-bling, le matériel, avec le spirituel.
Oui, mais enfin, disons que je pense que c'est tous les films, on en fait ce qu'on veut. Les trois quarts des films, je pense qu'il y a en particulier d'ailleurs les films de genre ou les films d'action, etc. Enfin, les films, très souvent, ils avancent comme ça, on en profite sur l'instant, et puis après, on essaye de trouver du sens derrière, chacun d'entre nous et pour tous les films. Et de toute façon,
comme un roman aussi.
Comme dans un roman, il me semble que les films à plus forte raison, enfin, n'importe quelle œuvre, que ce soit une chanson ou un livre, ils font leur chemin à l'intérieur de nous. Enfin, on les réinvente. Enfin, c'est ça qui est excitant. C'est la manière dont on se les approprie.
Et le parallèle avec le roman est intéressant parce que j'ai eu la sensation en voyant le film que l'histoire se faisait en avançant.
Oui, bien sûr. Et c'est là où le côté cinéma de genre, ça aide, parce que c'est bien de temps en temps de faire peur, de temps en temps il y a le côté suspense, disons il y a des éléments qui produisent de la tension et puis avec lesquels il me semble on réagit aussi un peu physiquement. Quoi.
Quand vous l'avez écrit,
c'est un film plus physique qu'intuitif, qu'intellectuel. C'est pas un film intellectuel du tout de ce point de vue-là.
Et quand vous l'avez écrit, c'était la même démarche, c'est-à-dire
non,
situation
parce que c'est
initiale et ensuite on avance et on voit où on va.
Non, parce que c'est Kristen qui a apporté ça. C'est moi j'ai écrit un scénario qui est au fond relativement simple et puis ça prend sa vie à travers une comédienne qui est Kristen et la manière dont elle s'approprie le film.
Vous l'avez écrit pour elle d'ailleurs.
Bah oui. C'est un poil plus compliqué que ça. Ah ben non, mais parce que quand j'écrivais, je me disais ça va être trop bizarre, elle va pas vouloir le faire. Et donc je me suis dit.
Et elle a dit quand je vais le lire, ils s'attendent tellement à ce que je dise oui, ça va être trop bizarre que j'appelle en disant je peux pas le faire.
Oui,
ça
sans doute. Oui. Non, mais c'est vrai que je l'ai vu à Paris. J'avais juste fini d'écrire. Je l'ai vu à Paris. Je lui ai donné le scénario. Elle l'a lu. Elle m'a dit je le fais. Mais c'est vrai que je croisais un peu les doigts quand même.
Alors vous dites que c'est un film de genre de suspense. Avec en effet des fantômes, une présence, du spiritisme. Il faut dire, préciser que c'est que Kristen Stewart, pardon, c'est un frère jumeau, Lewis, qui est disparu, qui était médium et elle aussi. Elle tente de rentrer en contact avec lui. Là où ça devient déjà plus Olivia Assayas, c'est qu'il y a une légitimité intellectuelle avec et la peinture et la littérature. Ilma Afkin pour la peinture et Victor Hugo pour la littérature, qui tous les deux étaient en contact avec
lui. Mais disons que pour moi, c'était important parce que c'est un film qui a à voir. Bon, alors on parle de fantômes, ça a à voir avec l'au-delà, etc. Mais si vous voulez, toujours les films de genre américain, c'est ce truc manichéen où ce qui est visible est bon et ce qui est invisible est très mauvais. C'est-à-dire que c'est l'incarnation du mal. Tout d'un coup, quand on commence à voir ce qu'il y a, ce qui se cache derrière, c'est terrifiant. Et là, j'avais envie de dire non, il peut y avoir aussi un rapport. Peut-être que l'invisible, il est bénéfique, quoi. Peut-être il y a des choses bonnes, il y a des choses profondes, émouvantes,
bienveillantes.
Et c'est pour ça. Je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas donner comme exemple cette peintre qui était aussi médium et qui a, en 1906, inventé la peinture abstraite en même temps que Malevitch ou Kandinsky. Enfin, c'est une grande artiste.
Qui n'a voulu être montrée, exposée qu'après sa mort.
Elle était tellement terrifiée de montrer des choses qui étaient tellement transgressives ou tellement invraisemblables de son temps qu'elle a dit, je ne peux pas supporter l'idée de ce qui me reviendrait en écho de ces tableaux. Et donc, elle a interdit de les montrer de son vivant et même elle a interdit de les montrer avant que 20 ans soient passés après sa mort. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une femme artiste, il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire de la peinture, qui a été essentielle dans l'invention de l'abstraction.
Alors c'est surprenant pour du Olivier Assayas, puisque vous êtes devenu un nom commun, on est d'accord au cinéma, c'est surprenant et c'est un bon film, comme une sorte d'exutoire pour vous, vous êtes amusé à mettre tout ce que vous aimez dans le cinéma, c'est-à-dire aussi filmer des scènes où il n'y a pas forcément 20-25 tonnes de dialogue pour surligner les intentions, avec de très bons comédiens, on parlera de tout le casting évidemment dans cette émission, mais aussi avec, comment dirais-je, une envie de jouer, quand vous dites avec le genre, une envie de jouer avec des effets spéciaux, une envie de jouer avec une modernité, en effet ces textos, est-ce que c'est quelqu'un de vivant ou de mort qui envoie les textos, chacun se fera sa lecture.
C'est l'intrusion du documentaire aussi, qui part dans... Enfin, c'est un mélange de genres, en fait. Il y a une sorte de patchwork.
Oui, mais enfin, disons que moi, je pense que...
Vous étiez plaisir,
Oui, enfin, l'idée, c'est aussi de faire plaisir au spectateur, d'une certaine façon.
Non, ça marche.
Il y a un peu l'idée que, justement, ce que j'aime bien, c'est surprendre dans les films, je m'ennuie. Dès que je comprends ce que le film raconte, ce qu'il raconte, où ça va, je m'ennuie.
Donc quand Titanic, c'est pas votre truc, alors?
Ah, j'adore Titanic.
Vous comprenez où ça va, ça va.
Oui, je sais rien. Il paraît qu'il y a une suite très différente. Il remonte.
C'est un jeu aussi avec le spectateur. Il faut surprendre le spectateur. Il faut l'emmener là où il s'y attend
pas. Non, mais Assayas qui fait peur, c'est-à-dire voir un film et entendre dans la salle des cris, des sursauts. C'est
on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude avec le porno.
Il
a pas encore fait.
Non, mais c'est pour un cinéaste, c'est extrêmement agréable d'entendre le public réagir. Que ce soit dans une comédie, moi quand j'ai fait une ou deux fois des comédies où Kristen Stewart riait parce qu'elle était pas dans le deuil, ça lui arrive.
Mais elle a pas fait exprès.
Je rigole. D'entendre des gens rire dans la salle, c'est génial.
C'est jouissif.
Parce que ça donne un repère qui est quand il y a des projections, des previews, etc. du film, quand on sait très bien à tel endroit si les gens vont rire plus, moins, beaucoup, et ça vous donne exactement la jauge de la réaction de la salle.
Et faire peur, c'est pareil, c'est-à-dire se dire
faire peur, on les entend moins. On les entend moins. Hein, les gens crient pas dans les salles.
Non, mais il y a des respirations. Non, mais on sent qu'il y a un souffle coupé par
moment. Oui, absolument. Oui, enfin, en général, les salles.
Moi, j'ai senti ma voisine sursauter.
Ah, c'est fait pour.
C'est parce qu'elle était assise à côté de vous, d'accord. Je comprends qu'on est la trouille.
Ça fonctionne. Pourquoi avoir installé l'univers donc du spirituel, du spiritisme, de l'au-delà, de l'immatériel en opposition au bling-bling et au surmatériel avec toutes les marques possible et imaginable.
Parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus bling-bling, de plus en plus matérialiste, et on vit dans un monde où on ne sait pas quoi faire avec les morts. C'est vrai, il y a peu de culture dans l'histoire.
Donnez-moi
à ce point-là. où il n'y a rien qui, au fond, organise notre rapport avec le deuil. Enfin, parce que la religion, ça ne nous intéresse plus, la spiritualité, on s'en méfie. Mais par contre, le matériel, au jour le jour, ça m'intéresse.
Donc les deux vont ensemble. C'est-à-dire, on ne sait tellement pas quoi faire de l'âme qu'on en devient matérialiste.
Aujourd'hui, on le voit, c'est ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a jamais eu une civilisation, une culture aussi matérialiste que la nôtre. Enfin, je ne dis pas que c'est forcément mal, mais disons que la question...
Ça peut ressembler à la fin d'une culture.
Il y a un côté un peu déprimant.
Il y a quand même un peu d'espoir, parce que le personnage incarné par Kristen Stewart et cette résistance aussi, parce qu'elle s'ennuie, elle n'est pas du tout épanouie dans cet univers très superficiel, et elle n'aspire qu'à une seule chose, c'est reconnecter avec une forme de spiritualité qui nous échappe depuis un petit moment.
Mais on est tous comme ça. On est tous, chacun d'entre nous, on est à la fois dans le monde et en même temps on essaye de sauver, quoi, de sauver notre
âme. Il y avait Jean Tiberi qui était très connecté avec les décédés aussi.
Pour les votes. Il était très fort, d'ailleurs c'est mon prochain film. Et
le biopic Tiberi.
Il y a un parallèle avec Blow Up aussi. Il y a un parallèle avec Blow Up, je me suis dit.
Oui, c'est
photographe dans le photographe de mode aussi.
Oui. Enfin, il y a un rapport. C'est du coup, je m'en suis rendu. Enfin, je venais d'écrire le. Enfin, ça m'a fait un drôle d'effet de comprendre ce que racontait mon film en regardant celui de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est-à-dire que je venais de finir d'écrire et j'ai vu Blow Up parce qu'il y avait la rétrospective à la Cinémathèque. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu sur un grand écran. C'est un film magnifique. Et
l'original ou le remake.
Le remake, c'est Blowout. Non, enfin, pas le remake. Ah oui, c'est l'un ou l'autre des deux Palma qui ressemble.
C'est Antonioni, là.
Celui de le vrai. Tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il raconte l'histoire d'une sorte de personnage complètement marginal de l'industrie de la mode, enfin, de la mode, qui tout d'un coup a une sorte de réveil au monde réel en étant confronté à un fait divers. Qui n'a pas eu lieu.
Il fait une photo et sur la photo, il a peut-être une scène de crime et le ou pas est aussi tout le long de votre film.
Voilà.
Systématiquement, il y a le ou pas qui arrive et il y a l'excitation aussi de Maureen, de votre personnage, qui est blasée par les robes de chez Chanel, les bijoux de chez Cartier, les chaussures de chez Louboutin, tout ça. Elle s'en fout. Ça lui fait rien. Ce qui l'excite, dans tous les sens du terme, c'est l'interdit.
Oui, bah disons que il y a un moment donné où effectivement c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire, hein, donc qui au fond elle a perdu, elle a pas juste
son frère jumeau,
c'est comme si elle avait perdu la moitié d'elle-même, c'est comme un personnage incomplet qui en plus elle est à Paris parce que son frère vivait ici, mais elle est pas d'ici, donc elle est dans un monde qu'elle connaît pas, où elle a pas de repères, de racines, d'attaches, etc. Donc elle est
son amant
elle,
est loin
elle,
d'elle,
elle est loin d'elle parce qu'il est en train de réparer des ordinateurs au Qatar ou à Oman en l'occurrence. Donc elle essaye de se reconstruire. Et se reconstruire, ça veut dire aussi d'interroger son identité, sa féminité. Il y a un truc de quête, y compris de sa sexualité, qui est en jeu là-dedans.
Et puis il y a cette présence qui, on ne sait pas justement si c'est une présence, un fantôme qui est en fonction d'un lieu, en fonction d'un moment ou en fonction d'une personne. C'est-à-dire si cette présence ne lui colle pas à la peau au point de la suivre, quoi qu'elle fasse et où qu'elle aille.
Et si cette présence est réelle d'une certaine façon, si elle est fantasmée, si elle est, enfin, il y a plusieurs lectures.
Disons que tu commences
à douter aussi sur sa santé mentale.
Et puis pour aller plus loin, les réponses restent en suspens. C'était à chacun, et c'est ça aussi la force du film, à chacun de dire et de voir ce qu'il a envie de voir.
Disons que on a chacun nos fantômes, et on donne chacun un sens différent à l'idée de fantôme. Et on vit avec des gens qui étaient proches de nous, on vit avec des personnages de fiction, on vit avec les gens qu'on a perdus. C'est ça qu'on appelle des fantômes.
C'est un très beau film qu'on vous encourage à voir, qui sort aujourd'hui avec Kristen Stewart, mais surtout avec la patte d'Olivier Assayas, qui est notre invité. Justement, quand on vous a annoncé la venue d'Olivier Assayas dans cette émission, là, vos oreilles ont sifflé.
Oui, je me suis réjouie immédiatement, Olivier. J'ai pensé à l'un de vos films, Après mai.
La politique, c'est pas un jeu. Si on se base pour la classe ouvrière.
Ça t'arrange parce que t'es extérieur au vrai combat.
Non, t'as tort. J'ai des convictions. La peinture, la révolution.
Je parle en artiste. L'art, c'est la solitude. C'est un choix. Mais c'est pas le mien.
Si ça tourne mal, je risque quoi?
Le problème, c'est pas de savoir ce que tu risques. C'est de savoir si tu décides d'être cohérent avec toi-même.
Voilà, après mai, une évocation des désarrois, on va dire, hein, d'un lycéen dans l'après 68, parce qu'il faut bien qu'il y ait un après, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait après?
Et maintenant,
on va où, hein, pour reprendre un titre d'un film de Nadine Labaki. Et alors, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même un rapport assez proche avec votre vie. Si on prend Personal Shopper, je crois que vous avez travaillé votre mémoire de maîtrise. Il y avait un rapport avec l'au-delà, l'ésotérisme.
Oui, c'est vrai. Oui, j'ai fait sur les rapports en fait entre la magie noire. Et la poésie symboliste.
Voilà, et là, après mai, c'est aussi tiré d'un livre autobiographique que vous avez écrit. Alors après, je ne dirais pas que le personnage principal, c'est vous, mais il y a quand même un parallèle. Et en me renseignant un peu sur votre jeunesse, mai 68, vous adhérez à l'ORA, l'organisation révolutionnaire anarchiste.
Moi, j'avais 13 ans. Hein.
Vous aviez 13 ans, ah, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous prend à ce moment-là? Pourquoi cet engagement? Adhérer à l'ORA.
Parce qu'à l'époque, on s'en rend, aujourd'hui, on s'en rend moins compte, mais y compris quand on était lycéen, il fallait juste se définir politiquement. Enfin, ouais. C'était un truc, c'était aujourd'hui, on a d'autres préoccupations, c'est Harry Potter, j'en sais rien, mais disons qu'à l'époque, il fallait définir si on était trotskiste, maoïste, etc., etc. Et donc, moi, j'avais choisi anarchiste parce que ça, il me semblait qu'il y avait plus de liberté, que c'était un canal, disons, plus naturel pour ce qu'il pouvait y avoir de révolte, en moi et au
il y a 13 ans.
C'est très précoce.
C'est quand on commence à se... Oui, mais à 13 ans, j'étais en quoi? J'étais en quatrième.
Ouais. Moi, j'étais déjà marié.
Ça bougeait bien. Gif sur Yvette.
Ça bougeait bien, Gif sur Yvette.
C'est un bon titre de film, ça.
Je pense au documentaire. On va commencer par un documentaire. On va pas tout de suite aller...
On va appeler Jean-Pierre Mocky, quand même.
Je crois savoir que vous distribuez L'Insurgé. Aussi,
exact,
qui était la parution.
Absolument, qui est l'organe officiel de cette drogue.
Alors, en voici un exemplaire.
Ah oui, voilà.
Alors, imprimé.
T'as un polycopié.
Il y a des archives en ligne, et vraiment, si vous avez un petit peu le temps devant vous, ça vaut le coup de vous pencher sur les éditos et sur les textes. Et même la couverture, ça ressemble un peu à un fanzine pour donner une idée à nos auditeurs.
Ça, c'est une version beaucoup moins sophistiquée, parce qu'il y a eu des périodes où c'était plus.
Plus
c'est
élaboré,
pour ça, vous le faites à 2 euros. On va pas payer plein pot.
On vous le fait. Presque gratos.
Ouais, presque.
Et je me disais simplement, l'après-mai 68, qu'est-ce que ça a conduit à penser ou quel chemin ça a conduit à prendre?
Disons que
c'est un drôle de personnage, il est un peu comme ça, qu'est-ce que je fais, où je suis.
C'est ce que j'ai fait, parce que c'est bizarre, parce que c'est un film à la fois personnel, parce que très autobiographique, mais j'ai l'impression que c'est le seul film collectif que j'ai fait, parce que j'ai l'impression que je raconte une histoire qui est celle d'une génération qui en fait a grandi dans des années où il n'y avait pas de repères, quoi. C'est un drôle de truc, c'est-à-dire, il y a un moment donné, parce que c'est une période passionnante, parce que tout s'est réinventé en termes de la société, en termes de comment on vit. C'est pas une question des valeurs, mais c'est plus les mœurs. Donc il y a eu une transformation radicale. Et quand on est ado à ce moment-là, on a d'abord, il y avait la conviction absolue généralisée que la révolution était pour demain. Donc de toute façon, ça sert à rien d'avoir des diplômes, de s'insérer de quelque façon que ce soit dans une société qui de toute façon est pourrie et va
exploser,
incessamment sous peu. On entend déjà le compte à rebours. Donc c'est vrai que c'est un drôle de truc de grandir là-dedans, parce que au fond, ça, on en reste avec le sentiment que tout est fragile, que tout peut se remettre en question à tout moment, et que rien n'est vrai, tout est permis d'une certaine façon. Donc moi, j'ai un peu gardé cette
idée-là. Mais rentrer à 13 ans dans un groupe anarchiste, c'était presque rentrer dans la norme.
Un groupe anarchiste. Moi, j'ai toujours été minoritaire dans la minorité. C'est-à-dire que les gauchistes, ils ont toujours été minoritaires. Et moi, j'ai toujours bien aimé être une sorte de minoritaire à l'intérieur de cette minorité. Donc, le groupe ORA, je pense que j'étais littéralement dans mon lycée l'un des seuls à savoir que ça existait. Et mon adhésion, elle a pas beaucoup excédé au fait de m'y abonner et de réclamer des exemplaires du journal pour les vendre à la sortie du lycée, quoi.
Personal Shopper, le film d'Olivia Assayas sort aujourd'hui. Très bon film. film, Kristen Stewart, qui va finir par être votre comédienne égérie maintenant.
Elle l'est déjà pas mal et elle peut continuer à l'être quand elle veut.
D'accord, on a compris le message.
Sur Jacques Tiberi, ça va être compliqué.
Ce film
a reçu... vu la gueule qu'elle fait dans celui-là, je sais pas si elle va continuer.
Moi j'aime bien, elle est tellement sexy, elle dégage tellement de choses, elle est formidable. C'est prix de la mise en scène qu'a reçu ce film à Cannes et il sort donc aujourd'hui. Vous aimez la musique, on le sait, c'est presque génétiquement et c'est familial. Voici un groupe qu'on veut vous présenter parce que nous on l'aime, Burning Peacocks. Ils sont en live dans la bande originale avec Tears of Love. C'est bien. J'adore.
Très rafraîchissant.
J'adore cette voix langoureuse. À peine, j'allais dire endormie, mais comme c'est un compliment. C'est-à-dire vraiment, on est dans les
vapes. Ah oui, c'est un bon compliment. C'est comme vous chantez, on dirait que vous êtes endormi.
Non, dans les vapes.
C'est planant, quoi. Dans les vapes. Planant.
Aidez-moi, Olivier. Vous en pensez quoi?
Non, j'adore.
Ça pourrait être une BO.
Oui, bien sûr.
Totalement, ça pourrait être une BO, carrément, cette musique. La voix est celle d'Alma, David est à la guitare, Benjamin à la basse, Alban au synthé, Florian à la batterie, sur laquelle il a mis une feuille A4 pour être sûr que ça amortisse bien le son. C'est à ça qu'on voit la patte de Burning Peacocks. Le nom du groupe, c'est un clin d'œil à My Bloody Valentine, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Racontez-nous.
Bah, en fait, c'est un peu le premier groupe qu'on a commencé, sur lequel on a commencé à parler quand on s'est rencontrés. Et du coup, c'était un petit hommage, un clin d'œil.
Alors, c'est vraiment une histoire de copains, de potes communs. David, vous rencontrez Alma.
Ça, on s'est rencontrés par la musique.
Elle avait un groupe, vous aussi, vous cherchez quelqu'un pour écrire des textes, comment c'est passé?
Non, c'est ça. J'avais des musiques de mon côté, j'avais besoin de quelqu'un pour écrire les textes, et on a beaucoup parlé de musique, et c'est comme ça que ça s'est fait.
Alors, il n'y a pas que de l'anglais sur l'album, il y a des titres aussi écrits et chantés en français. Un peu les enfants aussi de Jacquenot, on est dans une musique comme ça, R aussi, parce que Jean-Benoît est votre producteur, là aussi c'est une rencontre incroyable, c'est avoir un premier album produit par l'un des deux membres de R. Comment ça s'est passé cette rencontre, David?
On avait envie de bosser avec un producteur, on a commencé à faire la liste et puis on a regardé le...
Est-ce que tu peux mettre moins d'enthousiasme, s'il te plaît, parce que...
Non, mais c'était
non, mais aussi
c'était
simple que ça.
Oui, c'était aussi simple que ça, on a commencé à bosser sur un titre et puis après on s'est dit on fait tout l'album.
Pourquoi pas?
Voilà. Au début c'était juste pour un titre et c'était un peu comme une sorte de test pour nous deux, voir comment ça se passait, enfin pour lui et pour Burning Peacocks. Et bon, nous évidemment on savait déjà qu'on avait envie de faire l'album avec lui, mais on marchait un peu sur des œufs et au final comme ça s'est bien passé, il a accepté de faire tout l'album.
Quelles sont vos références musicales? Quelle est votre famille? Si vous deviez avoir des références, R j'imagine,
ouais,
oui. Mais est-ce qu'il y a des groupes comme Withers, comme Dire Straits, Visage, moi je pense aussi à votre voix comme ça planante sur le titre Fade to Grey, où il y avait une voix féminine française d'ailleurs qui apparaissait. Je sais pas, moi c'est ce que ça m'évoque, mais alors vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre discothèque?
C'est assez large, je pense. Enfin, en tout cas, sur l'album, il y avait des choses très précises. Ça pouvait aller jusqu'à Yves Simon, par exemple, sur des rythmiques. Ou des sons plus psychés, avec Pink Floyd aussi, sur certains traitements, Brian Eno. Donc c'est large.
Ça va, ça reste des bonnes références quand même. Vous serez en première partie de Rover, qui est toujours le bienvenu ici, qu'on adore aussi en tournée. Et Alma, c'est vous qui avez réalisé le clip de la chanson que l'on vient d'entendre?
Oui, c'est ça.
Pourquoi vous hésitez?
J'en ai réalisé trois sur quatre.
Donc vous êtes chanteuse, comédienne, puisque vous jouez dans plusieurs films et même une série, c'est ça?
Aussi, ouais.
Qui s'appelle La vie devant elle, qui passe sur France 3. Ouais. Faudra me dire quand, parce que j'ai pas vraiment
repéré. La deuxième saison, on a fini de la tournée en septembre, et ça va passer en février ou mars, normalement.
D'accord, et vous serez prochainement à l'affiche de Kids in Love, de Chris Foggin. Vous jouez quel personnage? Quel genre?
C'est un film anglais. En fait, il est déjà sorti en Angleterre fin août. Et donc c'est une histoire d'amour, c'est un teen movie assez joli sur le passage à l'âge adulte.
L'histoire d'amour, c'est entre vous et Cara Delevingne ou...
Non.
Excusez-moi, je crois qu'on a entendu mes fantasmes là pendant 2 ans.
Ouais. Insupportable.
On délire est passé à l'antenne.
Je crois que vous n'êtes pas le seul parce que j'ai lu des commentaires sur la bande-annonce où quelqu'un.
Oui, c'était
ça.
Moi.
J'ai plus de soupçons.
Ils sont tous là autour de la table.
Non, avec un acteur formidable qui s'appelle Will Poulter, un acteur anglais. Qui a des sourcils un peu bizarres. Il fait pas mal de trucs, il était dans le dernier...
Il va être président,
il faut pas se moquer des sourcils ici.
Ouais, faites gaffe, hein. C'est François Fillon qui est président, vous allez avoir des problèmes, des gros problèmes.
C'est sa marque de fabrique.
C'est ça. Sur l'album de Burning Peacocks, il y a également... Est-ce que la musique est une histoire familiale aussi? Est-ce que papa, maman, les frangins, comment ça... David, vous avez baigné là-dedans petit?
Oui, par mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique quand j'étais enfant.
Mais ils n'étaient pas musiciens eux-mêmes.
Et mon père aussi jouait de la guitare, il m'a appris les premiers accords, en fait, pour commencer.
Avec les tablatures, avec...
Exactement,
c'est ça.
Ouais.
Et vous, Alma?
Non, moi, mes parents ne sont pas musiciens, mais en revanche, ils écoutent énormément de musique et c'est eux qui m'ont un peu transmis cette passion-là aussi, je pense, parce qu'on en a toujours écouté depuis que je suis toute petite. Aren't you afraid, dancing in the fire?
C'est leur premier album, ça s'appelle Love Reaction, c'est vraiment un très bon album, ils reviendront tout à l'heure et nous offrir une reprise et ce titre Games. Ils seront en première partie de Rover le 26 janvier à La Roche-sur-Yon, le 19 mars à Béthune. Ici, il y a une salle parisienne déjà prévue, en attente
Le 17 mars, au Carreau du Temple à Paris.
Très bien, on fera tout pour y être. En tout cas, ils reviennent tout à l'heure dans la bande originale. Alma et David, le groupe, je redonne le nom, Burning Peacocks, et on aime. À tout à l'heure.
Merci.
La bande originale. Quand on parle de musique, la musique est très présente aussi dans Personal Shopper. Et puis il y a une scène, si, où elle essaye les vêtements, parce qu'elle n'a pas le droit d'essayer les vêtements de... C'est Kyra ?
Kyra, ouais.
Je sais pas comment il faut... Ouais.
Kyra, ouais. Kyra.
Kyra, ça fait un peu... Ouais. Kyra. Donc de Kyra. On imagine Kyra Knightley, enfin bon, des noms de la mode comme ça. Elle n'a pas le droit d'essayer, et elle l'essaye, et ça va très bien avec Marlène Dietrich.
Da streiten sich die Leute um.
Tu sens pas la souplesse dans le tissu non plus. C'est plutôt le taffeta là.
Quand tu vois le film et quand tu vois comment elle est habillée à ce moment-là, si tu la vois la souplesse.
C'est ça que vous l'ayez vu.
Ah oui, ça, je l'ai bien vu. J'ai même envie de retourner le voir. Ça s'appelle Personal Shopper. C'est un très bon film signé Olivier Assayas. Et nous allons évoquer en musique justement quelques années de votre carrière. On va commencer, on fera ça après Pierre-Emmanuel. Je vois le regard noir de Pierre-Emmanuel.
Surtout, il montre son point, quoi. C'est menaçant.
Mais oui, la bande originale d'Olivier Assayas, ça sera juste après l'humeur de Pierre-Emmanuel Barret.
Bravo!
Salut Nadie, merci Nadie, salut tout. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est? Edward Snowden qui pousse Arlette Chabot d'une falaise. C'est un lanceur d'Arlette. Bam! 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle. Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron, il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, eh ben d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'arlette, hein, naturellement. Alors, c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors, attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Et Jean-Claude, il se fout bien de notre gueule parce qu'il était premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat, on te refile Maître Guy Georges. Et attention Maître Guy Georges, quand il t'appelle à la barre, c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Alors, je dis du mal du Luxembourg, mais la France, c'est pas mieux. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule, François. Ton seul ennemi, c'est le mec qui t'a volé tes couilles en CE1. Et les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement, et en échange, tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Ils perdront en QI, mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France, on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite, et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui, je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors, vous avez jamais critiqué votre femme, Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes, c'est plus puni que lancer des missiles? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte. Je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. Et l'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, mais cette fois par 60 Guy Georges, et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fiche de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. C'est comme si tu te faisais reviolée par 70 Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Hein. Putain, pardon, non, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Hein. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Hein. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Bienvenue à
Maggie sur France Inter.
Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par le mot lingette.
C'est crédit limite. Coopératif.
J'aurais dû mettre Sopalin, pardon.
Olivier Sayas, il pourrait écrire l'édito de l'insurgé.
Ah bah sûrement, oui, faut leur dire.
L'insurgé est énervé. Pierre-Emmanuel Barré, Olivier Sayas est notre invité. Nous allons donc en musique parcourir quelques années de votre vie. On va commencer en 1979. Dans cette année 79, vous écoutiez, et j'en parlais tout à l'heure, Jacques Naud. Quand vous écoutez cette musique, qu'est-ce que vous avez comme image, qu'est-ce que vous avez comme moment?
D'abord, je pense à Jacques Naud, à qui j'étais très, c'était vraiment un ami et j'admirais beaucoup. On s'est connus parce que c'est la musique de mon premier court métrage. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier court métrage, c'était en 79, je suis allé chercher non pas une actrice de cinéma mais une chanteuse punk de l'époque, qui était Elie Medeiros, parce que c'était cette énergie-là là, qui me donnait envie de faire des films et des images. Et donc Jacques Naud était le musicien des Stinky Toys et les copains d'Elie. D'une façon, tout naturellement, on s'est dit, bah tiens, ça serait bien de faire qu'il fasse la BO du film. Et donc on est allé chercher à quelqu'un qui a trouvé 3 nuits de studio gratuites, etc., pour enregistrer ce qui est devenu Rectangle, Losange, Triangle, enfin le premier EP de Jacques Naud. Ouais. Et c'est vrai que c'est des souvenirs. Il y a un peu inoubliable.
Vous avez réalisé le clip aussi.
Clip, c'est un mot. Oui. C'est un mot. À l'époque, on savait pas qu'on faisait un clip. Ça n'existait pas, les clips. Nous, on pensait qu'on faisait un truc des années 60. On faisait un Scopitone, qui était un peu l'équivalent des jukebox avec des images Super 8 hein, dans les bars des années 60. Et non, on s'était fait pour se faire plaisir parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune télé, rien, personne ne passait des clips. Ça n'existait pas.
Vous avez totalement baigné dans le monde du cinéma puisque votre papa a réalisé 2 films en Amérique latine pendant la guerre. Vous avez été critique aussi au cahier du cinéma. En faisant ces tournages, en baignant là-dedans, c'est facile d'être partie prenante des deux côtés parce que critique, c'est généralement ceux qui font rien et qui aimeraient faire.
Critique, moi j'ai jamais eu envie d'être critique de ma vie. Je me suis retrouvé à faire ça parce qu'à un moment donné, j'avais commencé à faire des courts-métrages. J'avais envie. Moi, je viens de la peinture, au fond, c'est plus de la peinture. Et donc, j'avais commencé à faire des courts-métrages et j'étais assez ignorant du cinéma, de sa géographie, de pourquoi, comment on en faisait, etc. Et il se trouve que par mes courts-métrages, j'ai rencontré 2 rédacteurs des Cahiers du Cinéma qui étaient Serge Toubiana et Serge Danet et qui m'ont dit est-ce que tu veux écrire dans cette entrevue. Et moi, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire à écrire sur le cinéma? J'ai envie d'en faire. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des choses à apprendre. J'ai pas fait d'école de cinéma, et donc au fond, les Cahiers du Cinéma, ça a été pour moi une école. J'étais étudiant, quoi. J'ai été étudiant là, et c'était une assez bonne école de ce point de vue-là. Et puis, c'était une revue qui était faite par des gens qui voulaient faire des films. Donc, je me suis dit bon, peut-être, ça me permet de faire un petit pas ou 2 pas, etc., vers la pratique du cinéma.
Et pour parler de peinture, quel était votre style de peinture?
Alors, ça a commencé très très abstrait. Hein. Ça a commencé. Je suis parti de loin sur des choses où c'était vraiment des espèces de jets d'encre d'un truc ado qui a vu Pollock et qui a trop vu Pollock, quoi. Ensuite, après c'est devenu progressivement, j'ai appris à dessiner parce que je suis allé aux Beaux-Arts, je fais les ateliers, j'ai dessiné des nus et tout, etc. Donc du coup c'est devenu, etc. Et puis après je suis allé vers le graphisme avec des trucs un peu à la Bazooka, etc. Et puis après je me suis dit mais en fait Bazooka ils font ça beaucoup mieux que moi, et puis on peut pas faire à la fois du dessin, de la peinture et du cinéma. Enfin, pendant un moment j'ai pensé ça, puis après je me suis rendu compte que non, quoi, je vais me planter de part et d'autre.
Ça vous apportait quoi dans votre travail de réalisateur aujourd'hui de passer par la peinture?
Ça m'a appris un drôle de truc parce que en fait, pendant toute une période, je faisais des choses qui étaient abstraites, complètement abstraites. Et en fait, ce qui est curieux, quoi, avec un tableau abstrait, c'est que vous savez pas quand c'est fini. C'est-à-dire, vous commencez à peindre et puis à un moment donné, faut dire voilà, ça y est, c'est terminé, c'est ça le tableau. Mais pourquoi c'est ça le tableau plutôt que 5 minutes avant ou 10 minutes plus tard? C'est pas très clair. Et donc du coup, mais en fait, c'est un truc intuitif. Et donc j'ai appris en faisant qu'en fait, en réalité, en art, l'intuition compte autant que le raisonnement. Parce que quand on fait des choses abstraites, on raisonne pas, on est que intuitif. Et donc, je crois qu'il y a un truc très très d'un rapport très physique. Puis il y a la manière de toucher la peinture.
Et l'écriture de personnages, Chopin, vous l'avez faite comme ça, c'est-à-dire d'une manière presque automatique, intuitive.
J'écris toujours un peu comme on rêve. C'est-à-dire, j'ai toujours un peu l'impression qu'il y a un truc un peu onirique.
Est-ce que vous saviez où vous alliez au fur et à mesure de l'écriture?
Pas complètement.
Vous laissez porter.
Pas complètement. Enfin, je vois des repères parce que sinon c'est etc. Mais quand même, l'écriture, elle s'invente en écrivant. Après, j'ai des repères parce qu'on est obligé d'avoir une vague notion de où on se dirige. Mais ça s'invente un peu en avançant.
Et vous parlez du nu dans la peinture, le nu au cinéma, vous l'abordez de la même manière?
Non, parce que c'est pas la même chose de regarder un modèle qui pose que de demander à un acteur, une actrice de faire des choses qui sont relativement impudiques à l'image. Donc il faut arriver, c'est des choses qu'il faut arriver à construire et qu'il faut traiter comme une autre scène au cinéma, mais il faut, je sais pas, à la fois la sensibilité, la tension qui fait que ces choses-là s'imposent et que les acteurs n'ont pas le sentiment que le film leur vole quelque chose. C'est pas bien.
Et vous avez dû négocier des scènes avec
Christiane est plutôt allée beaucoup plus loin dans ce film-là que ce que je lui demandais de faire. C'est plutôt elle qui m'a entraîné plus loin dans la représentation de choses sexuelles que ce que je lui demandais. Enfin, il y avait une manière de s'abandonner
à lâcher prise.
Ouais.
79-80, donc nous étions avec la musique de Jacques Naud, pardon. Je voulais juste faire un petit clin d'œil aujourd'hui parce qu'on a pu entendre, à moins que vous le connaissiez, la musique, je pense que vous la connaissez puisqu'elle joue dans votre film de Calypso Valois. J'adore cette formule. Cette salope est belle comme le jour. Ça s'appelle Le Jour. Calypso Valois est la fille d'Élie Médéros
et de
Jacques Naud. Et elle joue dans votre film l'assistante du photographe de mode.
Oui, ça fait. Elle avait déjà joué. Elle avait un petit rôle déjà dans Après Mai. J'adore Calypso. Je suis hyper heureux pour elle que sa musique commence à être reconnue.
Ah ouais, bien elle a une voix comme Françoise Hardy pouvait.
Elle a un truc magique. Ouais, je trouve c'est un truc magique. Je la connais depuis qu'elle est enfant,
bébé.
Bébé.
Elle est solaire. En 85-86, on retourne vers le froid, mais la bonne musique aussi de New Order. On est dans une période très New Order parce que Jérémy Elkaïm, ce même micro, a choisi exactement le même titre de New Order, marrant, ouais. Bizarre Love Triangle, en 85-86. Vous écrivez le scénario de Rendez-vous et Désordre, ce premier long métrage en tant que réalisateur. Vous avez co-écrit Rendez-vous, réalisé par André Téchiné, qui vaudra d'ailleurs au cinéaste le prix de la mise en scène à Cannes. Décidément, c'est un prix qui vous est cher. De vous frotter comme ça l'écriture avec pour Téchiné, ça vous a, c'est quel souvenir, quelle expérience?
Ce qui est marrant, c'était moi j'ai énormément appris avec André Téchiné. C'est-à-dire que il est venu, moi à un moment donné j'avais commencé à écrire mon premier film qui était Désordre et le scénario n'était pas encore terminé et André m'a proposé d'écrire avec lui très vite ce qui allait devenir Rendez-vous et tout d'un coup j'ai eu l'impression, enfin je me suis, j'ai, alors que j'avais un rapport quand même plus scolaire à l'écriture avec lui, j'ai appris à écrire pour les acteurs, à écrire penser les scènes en termes aussi d'image, de pas hésiter à se faire entrechoquer des choses. Enfin, il m'a appris la liberté de l'écriture. Et c'est vrai que la façon dont j'ai vu le scénario qu'on avait écrit se transformer en un film qui a eu la reconnaissance qu'il a eu, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, qui m'a donné vraiment de l'énergie pour faire mon propre film. Et la bande-son pour moi de cette époque-là, c'est vraiment New Order. C'est ça que j'écoutais en boucle.
Alors la musique, justement, comment vous la consommez, cette musique, quand vous travaillez sur le tournage? Est-ce que vous écoutez la musique qui va faire partie de votre BO, dont on a entendu tout à l'heure des extraits, ou est-ce que vous écoutez totalement autre chose? Est-ce que vous écoutez la radio dans la voiture en allant sur le tournage? Enfin, comment ça se passe?
Non, moi, j'écoute pas mal de musique, mais je l'écoute. Il y a deux choses différentes. Il y a ce que j'écoute dans la vie, et puis c'est vrai que pour chaque film, j'ai tendance à mettre de côté des morceaux qui m'inspire ce que j'ai écrit. Qui vont finir par être dans le film ou pas, mais qui ont à voir avec l'ambiance du film. Je fonctionne plus facilement avec la musique qu'avec des images. Il y a des gens qui utilisent des photos, des tableaux, des repères visuels ou des livres, ou j'en sais rien. Moi, c'est des chansons, c'est des morceaux qui me donnent un peu la note du film que j'ai envie de faire.
On vous sent ouvert à toute forme d'art, que ce soit la peinture, la littérature, la musique, le cinéma. Enfin, vous êtes et puis même la télé, puisque vous êtes passé aussi par la télé.
Je crois qu'on est un peu tous comme ça, sinon mais c'est vrai que j'y trouve.
Olivia, ça y a, c'est vrai. Je suis pas totalement convaincue que ça soit aussi éclectique, c'est-à-dire qu'on peut avoir un domaine de prédilection, de recherche où on est en zone de confort parce qu'on s'y connaît, là c'est vrai quand vous évoquez la peinture, la musique, un rapport à la littérature, quand on parle de la littérature poétique, ésotérique, c'est quand même assez rare.
Même la mode, parce qu'on n'a pas parlé de votre maman, mais qui était aussi styliste chez Hermès.
Oui.
Donc là, on retrouve aussi un côté personnel shopper. Enfin, l'un des volets de personnel shopper, c'est-à-dire la mode et pas n'importe quelle mode, quoi. La mode haut de gamme.
Disons que en tout cas, si vous voulez, c'est un peu comme, je sais pas, le marché de l'art sur lequel on peut avoir des réserves, nous empêche pas de regarder l'art contemporain et de la même manière, il faut pas que le bling 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 nous empêche de voir ce qu'il y a de beau dans la mode. Effectivement, ma mère était styliste, donc j'ai pas de mérite à y trouver une beauté ou une poésie ou un art.
Vous pourriez rejeter totalement aussi ça.
Oui, je pourrais aussi. Ouais. Mais enfin, disons, il y a cette ambivalence, en tout cas, dans Personal Shopper. Il y a à la fois, disons, une manière de montrer, je sais pas, le ridicule ou même l'absurdité, d'ailleurs, de l'industrie du luxe aujourd'hui. Et en même temps, il y a quelque chose dedans qui a à voir avec l'air du temps, qui a à voir avec une forme de beauté. Qui est une chose qui est précieuse dans la vie quand même.
Non, et puis comme tout est en rapport avec la vie et la mort, c'est-à-dire vous opposez le futile et l'essentiel, vous opposez le bling-bling avec le spirituel, le concret, le réel, l'argent sonnant et trébuchant avec l'immatériel. Enfin,
et la source de vie aussi, parce que c'est pas si péjoratif que ça, en fait. Oui, c'est pas si... on parle d'esthète, on parle de rapport au beau, et le beau est dans le vivant aussi.
Voilà.
Et donc c'est pas si manichéen, je crois.
Oui, j'ai essayé. Disons qu'en tout cas, moi je crois que le cinéma il est là pour poser des questions et pas pour faire la morale ou pour donner des leçons, etc. etc. Et je pense que ça c'est le cinéma ou le roman, enfin, c'est des domaines où on parle toujours de l'ambivalence des choses.
Enfin, au casting du film, donc il y a aussi Lars Eidinger, comment je dois prononcer ?
Lars Eidinger,
d'accord. Sigrid Boisiz qui joue la française bilingue, bonne copine, mais extrêmement juste. Également Anders Danielsen Lee. Ty Olvin, Amu Graya, Nora von Volstatten. Comment on fait un casting comme ça très international? On pense aussi au marché mondial,
Lars Eidinger, c'est un des je trouve que aujourd'hui c'est un des grands acteurs européens. C'est quelqu'un qui est une superstar au théâtre en Allemagne et qui au cinéma n'a pas fait tant de choses que ça, mais j'ai eu la chance de travailler avec lui sur mon film précédent sur Sils Maria, parce que le personnage était allemand, donc je cherchais un acteur allemand, et donc je l'ai rencontré. Je regrette de ne pas l'avoir rencontré plus tôt, parce que j'aurais fait plus de films avec lui.
Quand vous avez votre bande, vous la gardez. On a l'impression que c'est une équipe en permanence.
Oui.
C'est ce qui a rassuré aussi Kristen Stewart, ce qui l'a séduit.
Disons que il y a une manière de faire du cinéma qui est familiale, qui est libre, etc., qui est une chose qu'elle ne connaissait pas du cinéma américain. Le cinéma américain, il est hyper industriel. Il est lourd, il est contraignant, il est castrateur, etc. Et c'est tandis que tout d'un coup, elle se retrouvait avec une équipe très soudée, parce que moi je travaille avec toujours les mêmes gens depuis toujours à peu près, et donc où tout d'un coup, elle se retrouvait au milieu d'un truc qui était humain, où il y avait de la liberté, où il y avait du plaisir de faire du cinéma.
Et de la bienveillance.
Et de la bienveillance. Et c'est en général, c'est ce qui surprend souvent les acteurs américains, parce que très, très souvent, le cinéma américain... enlève le plaisir de la pratique du cinéma. Ça devient un boulot, une industrie, et ça pèse des tonnes. Tandis que en Europe, au fond, en France, on a la légèreté et la liberté.
Daniel Morin, c'est ça qui est bien aussi, avec la présence de Kristen Stewart dans le film Olivia Sayas. Les stars américaines finissent par être intéressées par le cinéma français. On peut en être fier, et c'est grâce au talent de réalisateurs comme...
Oh la vache! Le vent d'intelligence que je me prends en pleine face chaque fois que vous intervenez, monsieur Guy, c'est hyper impressionnant. Hein. Vous êtes le zéphyr de la réflexion. Bon, aujourd'hui, non, mais c'est pas grave. Non, parce que monsieur Guy, on ne peut pas être fier de cette ouverture du cinéma français. Le cinéma français doit rester aux Français. Même pour les rôles d'étrangers, pour ça on a Jane Birkin, c'est bien suffisant. C'est quoi d'un seul coup ce vent de mondialisation du cinoche tous azimuts au détriment du petit commerce de la pellicule, de l'artisanat convivial, du travelling chaleureux? Hein, depuis quand ce désir d'un monde sans frontières avec des castings venus de partout dans le monde? Attention monsieur Guy, vous développez le syndrome du DRH par 12 heures. Non mais le cinéma c'est une histoire de famille, depuis quand on invite les étrangers à ces réunions? C'est quoi ça? Ou bien vous avez viré à gauche, vous avez été contaminé par France Inter. Voilà, c'est ça, vous avez été contaminé. Vous trouvez que la présence de l'autre, de l'inconnu, ça nous enrichit?
Ouais.
Oh, ça y est, on a basculé dans l'international socialiste du long métrage, de la fraternité des castings sans frontières. Et Schengen, bordel, vous en faites quoi? Anarchiste, bah. Non mais vous imaginez DiCaprio dans Camping 5? Il serait mauvais comme un cochon, il a pas l'envergure d'un Franck Dubosc, le gars. Puis excusez-moi, mais ça sonnerait hyper faux. Alors, on ne t'a pas Patrick? Non, c'est naze, ça. Je suis désolé, il n'y a pas de quoi être fier, monsieur Guy. Vous n'êtes qu'un vandale, une brute, un voyou, un attaché de presse. Une fois de plus, je suis désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi!
Merci,
avec Maggie. Retour dans cette bande originale. Olivia Sayas est toujours notre invitée. Les Burning Peacocks aussi. Premier album de Burning Peacocks, ils nous interpréteront dans la dernière demi-heure Games, mais là ils nous offrent une reprise du Velvet Underground. I'm waiting for the man. C'est parti.
$26 in my hand, up to Lexington, 1 to 5. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? We'll be right back.
Burning Peacocks dans la bande originale avec cette reprise du Velvet Underground. Ils reviennent dans la dernière demi-heure et Olivia Sayas de rester notre invité jusqu'à 12h30. Il signe Personal Shopper et ça sort aujourd'hui et on vous le recommande. C'est la bande originale, soyez bienvenus avec Leïla Kadoboudali.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Pierre-Emmanuel Barré.
Bonjour.
Richard Romain qui est au clavier. Bernie Picot, qui est sur Rose tout à l'heure, et notre invité, Olivia Sayas.
Bravo.
Qu'est-ce que tu me dis en me parlant en même temps que je
fais on
vient de passer la pub pour Mishka Sayas.
C'est ce qu'on est sur, sur Radio Campus.
Parce que, après, si on dit ça, on va croire qu'on a invité Olivia Sayas que parce qu'il a un frangin qui bosse à Inter. Non. Et d'ailleurs, on va virer
son frère qui bosse à Inter aussi
pour prouver que c'est pour ça que l'on aime Olivia Sayas pour son film Personal Shopper, un film qui mélange encore une fois le concret, le matérialisme dans lequel évolue Maureen, personnage incarné par Kristen Stewart, star mondiale évidemment avec tous les Twilight, ce qui a pas dû être simple pour vous d'ailleurs pour se caler. J'imagine qu'elle a un planning extrêmement
enfin disons que là moi j'étais obligé de retarder mon film à cause de Woody Allen,
Café Society.
C'est chic
à cause du Café Society. Oui c'est très chic, mais enfin néanmoins c'est juste
ça fait chier. Ouais. Ouais. Ouais.
Woody Allen ou pas, c'est en retard,
hein. C'est chic et chiant,
c'est chiant.
Elle était aussi absolument merveilleuse dans Sils Maria avec Julien Binoche.
Le premier. Ouais.
C'est la deuxième fois que vous tournez avec elle. Bientôt une troisième donc.
Il y en aura une troisième, j'espère.
Et elle a été compliquée à convaincre sur Sils Maria et tout.
Sur Sils Maria, non, mais alors là pour le coup c'est vraiment une question de date. C'est-à-dire moi je lui avais proposé le film, elle pouvait pas le faire parce que ça allait pas dans les dates. Je l'ai proposé à quelqu'un d'autre qui le faisait, puis après elle le faisait plus et tout d'un coup Christine était libre et c'était un petit peu plus, ça tanguait un tout petit peu plus que pour Personal Shopper où c'est presque allé de soi quoi. Ça s'est fait tout seul.
Il y a des fantômes, il y a du matérialisme poussé à l'extrême du bling-bling. Vous parlez même dans une interview de bling-blingisation. On y va dans les néologismes. Mais en tout cas, cette jeune fille qui a perdu son frère jumeau, médium comme elle aussi, essaye de rentrer en contact avec lui puisqu'il s'était juré que le premier des deux qui disparaîtrait enverrait des signes de sa présence et de sa bienveillance à l'autre, parce que les premières questions dans les séances de spiritisme, ou en tout cas dans les contacts avec le fantôme, c'est de savoir est-ce que tu me veux du mal ou est-ce que tu me veux du bien. On parlait de malveillance ou de bienveillance, et justement l'au-delà n'est pas forcément négatif, n'est pas forcément noir, mais tout n'est pas, comme le disait Leïla, manichéen non plus dans le film. Et dans le titre, le choix du titre Personal Shopper, c'est un véritable métier qui existe. Et en même temps il y a les deux, il y a le shopper, shopping, le matérialisme, et il y a le personal dans le titre avec l'être humain et toute sa sensibilité. C'est ce qui vous a...
Disons que j'avais envie de raconter un personnage qui est une sorte de prolétaire de la mode et qui en chie et qui au fond, on voit tout le Personal Shopper, on voit très bien que c'est quelqu'un qui est quand même à un niveau très très inférieur du monde de la mode, et qui néanmoins le fait vivre, le fait fonctionner, fait tourner la machine en transportant des sacs à droite, à gauche,
et qui est presque un décideur par rapport aux marques et aux magasins. Il est important aussi que les marques soient bienveillantes avec cette personne-là, parce qu'elle fait de l'entre-gens. C'est un intermédiaire avec la star qui va acheter ou pas.
Voilà. Néanmoins, son job, c'est quand même de se balader en scooter dans Paris, d'un service de presse à un autre service de presse.
Voilà.
Mais après, on peut même dire qu'il peut y avoir éventuellement quelque chose de créatif, parce que disons que c'est elle qui assemble des fringues et pour les proposer à sa patronne. Après, elle fait son travail bien. Elle vérifie sur Internet, elle regarde les photos des soirées sur les tapis rouges, si elle avait bien mis la robe qu'il fallait mettre, et ainsi de suite.
Et puis elle est d'un naturel désarmant, Kirsten Stewart, dans sa manière de jouer, dans sa manière dont vous l'avez fringué, avec des pulls trop grands, avec une sorte de laisser-aller, et de presque non-maquillage, on a l'impression.
Moi, je laisse les acteurs faire. Surtout sur un personnage comme ça, j'avais envie qu'elle puisse créer le personnage aussi à travers la façon dont... Alors après, moi, je déplace un petit peu le curseur ici ou là quand je pense que ça peut être mieux, mais tout ce qui te relève de à la fois de ce qui est raconté par les vêtements d'un personnage, c'est l'acteur et l'actrice. Et avec Kristen, elle adore ça, et elle adorait l'idée de quelqu'un qui justement n'en a rien à faire. C'est-à-dire qu'à la fois les habits, c'est pour sa patronne, c'est son métier,
c'est tellement
mais
plus chic.
Elle dans sa vie à elle, ouais.
c'est toujours comme
quoi.
Ça, les coiffeurs, ouais. Ils sont toujours coiffés mmh. comme des...
Vas-y.
Voilà.
Et l'au-delà et vous. Oui. Pensez-vous à ces ondes, à ces présences, pensez-vous à la bienveillance de ceux qui ne sont plus de ce monde?
Vous y croyez, quoi?
Bien sûr, j'y crois. Je dis ça dans le sens où on vit tous avec nos fantômes. Mmh. On a tous des personnes chères qu'on a perdues et avec lesquelles on continue ce dialogue. Alors on appelle ça des fantômes. Mais on est tous entourés de notre passé, de notre vie, des gens qu'on aime et qui sont pas
certains,
physiquement présents.
Ça s'appelle un casier judiciaire.
Ça s'appelle un casier judiciaire. C'est un peu la même chose, au fond. C'est une sorte de casier judiciaire spirituel.
Et quand vous serez fantôme, vous serez bienveillant?
J'essaierai de l'être, oui.
Justement, lui, malheureusement, c'est pas un fantôme, il est bien là. C'est Daniel Morin, monsieur.
Et Gaëtan Laprie. Vous l'avez compris, aujourd'hui, mercredi, c'est jour de sortie ciné. Alors, bien sûr, il y a le film de notre invité, Personal Shopper, un film merveilleux dont je ne parlerai pas, déjà parce que je ne l'ai pas vu, et même si ça n'empêche pas certains d'en parler, de ne pas l'avoir vu, mais ça fait déjà maintenant plus d'une heure qu'il est traité de façon magistrale autour de cette table, alors je m'abstiens. Cette semaine, nous avons Manchester by the Sea, un film bouleversant, un film qui vous... une histoire qui... enfin, un truc qui ne vous laisse pas indemne. C'est l'histoire de la famille Chandler, famille de classe ouvrière du Massachusetts. Déjà là, tu me vends du rêve. Après la mort subite de Joe, le frère aîné, Lee devient le tuteur légal de son neveu. J'ai envie de chialer devant tant de générosité. Lee doit faire face à un passé tragique qui l'a séparé de sa femme, Randy, ainsi que la communauté où il est né. Le tout, bien sûr, avec des paysages beaux, sauvages, mais surtout plus vieux comme mon cœur devant tellement de... Bref, je suis anéanti de bonheur. Et là, je peux vous dire une bonne chose, les amis. Là, c'est sûr de sûr, ce film, les chances que j'aille le voir sont à peu près de zéro. Hein. Ça va pas la tête ou quoi? Vous croyez que j'ai pas une vie assez stressante comme ça pour aller en plus aller chialer au Cinoche devant des paysages qui me donneraient plutôt envie de flinguer Evelyne Delia? Non. Bon, on change de film maintenant. Ballerina. Oh, un film d'animation. C'est plus dans mon champ de divertissement, ça. Alors, l'histoire. Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n'a qu'une passion, la danse. Avec son ami Victor, il s'échappe de l'orphelinat direction Paris. Une fois sur place, la galère commence. Où aller? Comment se loger? Comment vivre? Félicie ne sait pas où se trouve le pôle emploi à Paris. À Brest, oui, mais pas à Paris. Et puis... depuis, son rêve commence à prendre forme. Elle est acceptée à l'opéra pour y apprendre la danse. Le problème, c'est que Félicie fait un peu tâche au milieu des autres filles hyper guindées et surentraînées. Il faut dire que Félicie est une drôle de petite coquine plutôt expiègle. La compétition est sévère. À l'opéra, il y a une petite très très douée qui danse et qui techniquement est bien meilleure que Félicie. Félicie, c'est de la générosité, tandis que l'autre, c'est un cœur de pierre. Félicie est généreuse, généreuse comme un téléthon à elle toute seule. Alors à force de travail, force de courage, de sacrifice et d'envie, Félicie progresse, progresse, progresse. Elle arrive à surmonter ses lacunes, ses faiblesses, ses peurs et ses angoisses. Est-ce que la conviction, la gentillesse et la passion gagneront face à la froideur, la technique et le mépris? Bien sûr que oui, dans ce film à la con qui porte des valeurs idiotes, elle va forcément gagner, la petite souillon. Ce qui est débile, parce que dans la vraie vie, c'est toujours les salauds qui gagnent à la fin. Hein. Normalement, c'est la petite méchante qui doit gagner le concours de l'opéra et pas Félicie, qui dans la vraie vie finirait sûrement par danser dans un bar glauque, puis à se mettre à consommer du crack pour finir sur le trottoir et mourir dans les 3 semaines d'une overdose sur les marches de l'opéra Garnier. Hors de question que j'aille voir ce film. Allez, dernier qui me titille. Rogue One, a Star Wars Story. Là, clairement, un film France Inter. Ce film est la représentation parfaite du bien, les pauvres, face aux méchants, les riches. Cette œuvre, confite d'effets spéciaux belliqueux et de cascades sanglantes, n'est qu'une parabole hollywoodienne de la résistance démocrate face à la domination tyrannique de Dark Va Trump, le très méchant. C'est l'évidence. Dark Va Trump est méchant parce qu'il a le pouvoir et l'argent, mais pas que. Depuis l'enfance, il est frappé par la malédiction du Rookmout. Oui, toute sa vie, il a été brimé, moqué, tyrannisé à cause de sa toison rouge. Du coup, après avoir gagné assez d'argent, il a acheté un casque pour cacher son panache hirsute. Au bout de plusieurs années, à force d'avoir la tête coincée dans son casque, il est devenu violent. Il s'est dit, quitte à être violent et con, autant envahir le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Mais la résistance s'organise. Alors... Alors, est-ce que la résistance des pauvres soldats démocrates, mal armés, mal habillés, habillés de guenilles en tout cas, viendra à bout du totalitarisme de l'homme qui était roux sous son casque? Vous le saurez en allant voir Rogue One, la vengeance de Doug Van Trump. Et là, carrément, oui, 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 j'ai envie d'y aller. Après avoir vu votre film, Olivier, ça va de soi. À demain.
Évidemment.
Sur France Inter.
D'abord voir Personal Shopper, après faites ce que vous voulez, comme écouter le brouillon de culture de Leïla Kadhoubi pour Olivier Assayas.
Olivier, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, et on commence par un son, pour vous, bien entendu.
Et là, et la deuxième jambe, elle vient là, tu arrives tendu là, tout de suite tu viens là, et tu tournes, tu viens là, plié là, tourne, pose là. En fait.
Ça m'étonne que vous ne riez pas encore. Je
ça me rappelle une soirée chez Nagui.
Je sais pas pourquoi.
J'ai vu ce film.
C'est quand on avait joué. Comment s'appelle ce jeu où tu dois mettre les pieds et les mains?
Twister. Oui, sauf que là, c'est Eldorado, le documentaire qu'Olivier a consacré au chorégraphe Angelin Prège-Locage. Une façon.
C'est toi qui arrives à le dire aussi vite.
Angelin Prège-Locage.
Angelin Prège-Locage.
Et c'est aussi.
Non, c'est un très bon danseur.
Très grand chorégraphe. Très très grand chorégraphe qui a réalisé son premier film. On avait reçu justement Juliette Binoche pour Absolument. Paulina dans C'est sa vie, qu'il a co-réalisé avec Valérie Muller, pour être précise. Et là, dans le travail que vous consacrez à ce chorégraphe, Angelin Prège-Locage, il y a quelque chose de l'ordre du cinéma, dans la chorégraphie entre... votre caméra.
Ah oui, c'était
corps.
J'ai toujours été intéressé par le rapport qu'il y a entre la danse et le cinéma, parce qu'au fond, c'est des acteurs, ils sont un peu danseurs, et quelqu'un comme Kristen Stewart est entièrement danseuse. Et c'est vrai que le fait d'avoir suivi les répétitions d'un spectacle d'Angelin Prège-Locage,
c'est moins fluide. Hein,
arrêtez.
J'ai trouvé ça très bien.
Merci. Au fond, ça m'a permis de comprendre comment fonctionne la danse, comment effectivement l'intuition que j'avais des affinités entre le cinéma et la danse en réalité fonctionnait. C'est le dialogue avec Angelin, il s'est poursuivi depuis, parce que je trouve que ce qu'il fait est passionnant.
Et s'il y avait un autre chorégraphe à suivre pour réaliser un nouveau documentaire ou pour l'associer à un de vos films, ce serait
pour l'instant, je m'en contente d'un.
D'accord, on reste avec celui-ci. On poursuit avec un autre son.
Il y a tout juste 20 ans, jour pour jour, était votée la loi abaissant en France la majorité de 21 à 18 ans. Un anniversaire intéressant à signaler au moment où surgit une polémique sur la maturité des jeunes spectateurs. Le film L'eau froide, en effet, qui compte les amours malheureuses de deux adolescents, a été frappé d'une interdiction au moins de 16 ans, une mesure très rare pour un film sans sexe ni violence. Décision prise par le ministre de la Culture qui redoute une incitation implicite au suicide.
C'était aux 20h d'Antenne 2 à l'époque, le 7 juillet 1994, l'annonce de l'interdiction de votre film L'eau froide aux moins de 16 ans, interdiction levée 4 jours plus tard. Dans un contexte un peu particulier, le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Toubon, l'avait fait interdire sans...
Disons qu'il avait demandé à ce qu'on mette une mise en garde, un avertissement. Enfin, c'était néanmoins complètement absurde pour ce film-là. Ça a fait beaucoup de tort au film, parce que c'est un film qui parle de l'adolescence, qui s'adresse aux adolescents, et il est sorti et il est parti. L'interdiction au moins de 16 ans a été levée, alors que le film, ça faisait déjà plusieurs jours qu'il était en salle, et oui,
ça lui a pas fait de pub après?
Le mal était fait,
Non. Pas insuffisamment.
Parce qu'on a su qu'il était interdit, mais pas su qu'il était désinterdit.
C'est ça, ouais.
Alors, on parlait tout à l'heure, Olivier, de votre lien avec la peinture, là, avec la danse, quand on parle d'Angelin Prège-Locage. Il y a aussi un lien dans ce film avec le théâtre, puisque dans le casting, vous l'avez peut-être noté, il y a Pascal Rambert et Audrey Bonnet. Pascal Rambert, qui est un grand metteur en scène, un auteur de théâtre, qui joue d'ailleurs ce soir au T2G La Clôture de l'Amour, qui est une de ses plus belles pièces, si vous voulez y aller, et pour quelques jours. Voilà, c'est encore une façon d'étayer cette notion de transversalité dans l'art.
Oui, puis c'est aussi le besoin d'avoir des amis aussi. Enfin, j'aime quand je travaille le fait d'avoir des gens qui sont proches, et Pascal Rambert est certainement l'un des artistes français avec lequel j'ai le dialogue le plus soutenu et le plus ancien. On se connaît depuis littéralement nos débuts, j'ai suivi tout son travail et je pense vice-versa, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été très important pour moi.
Et bien, je vous fais un cadeau puisqu'il parle, eux, dans le film d'Ilma Afklint que j'ai pu découvrir grâce à vous. Moi, je vous offre le catalogue Bernard Buffet. En ce moment, il est au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. C'est la Chic. Plus grande rétrospective qui lui est consacrée.
Alors, il Buffet, est dédicacé. Hein.
Buffet en demande. C'est Daniel qui l'a dédicacé pendant la pause. Il faut juste savoir que Buffet, il était très très connu, très très jeune, très riche. Il avait la notoriété d'un Picasso. Il n'a jamais vraiment été aimé et adopté en France d'une certaine façon. Et puis, comme vous, dans après mai 68, il parle de l'après-guerre. Et toutes ces toiles sont teintées de ce traumatisme-là. Et c'est très très beau à voir. Je vous y incite. C'est au musée d'art contemporain.
Leïla, ce cadeau pour Olivier Assaya, c'est notre cadeau, celui qu'on vous offre aujourd'hui en live. Burning Peacocks, le groupe composé d'Alma, David, Benjamin, Alban et Florian. En concert, je rappelle, en première partie de Rover le 26 janvier à La Roche-sur-Yon, le 19 mars à Béthune. L'album est sorti. L'album, est, ça, lui, s'appelle Love Reaction. Et j'ai oublié la date, c'est le 17 mars. Vous serez au
Carreau du Temple.
Voilà. Et les voici donc en live avec un nouvel extrait de leur album. Il paraît qu'il y a une nappe. N'hésitez pas à l'envoyer maintenant, cette nappe, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ça s'appelle Games et c'est en live.
The game. Sit
tournée, bon concert. L'album s'appelle Love Reaction, leur premier album. C'est pas son premier film et il est excellent ce film Personal Shopper, comme tous les films signés Olivier Assayas. Mais ce qui est bien, c'est que ça surprend aussi et que vous arrivez encore à nous surprendre, et tout ça dans la qualité. Ce film sort aujourd'hui. Merci Olivier d'avoir été notre invité.
Merci.
Et plein de bonnes choses et plein de bonnes vibrations. On se retrouve demain avec Michel Boujna qui sera dans la bande originale. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour tout le monde.
Coucou. Salut Philippe.
Et c'est vachement bien le portable maintenant, parce qu'on peut communiquer directement avec les esprits avant, vous vous souvenez ? Il fallait, c'était fastidieux. Esprit, tu l'as, un coup pour oui, deux coups pour non. Ça durait de plomb, finalement tu étais fatigué, à la fin tu te retrouvais en relation avec Napoléon, obligatoirement.
Enfin bon. Bien, un autre résumé du film.
Salut les amis.
Ciao, bonne émission.
Ciao.